Radio Bac, le 37e, notre troisième partie avec notre invité Didier Aldebert, maire de Vinassant donc, mais également, alors vous êtes conseiller communautaire au Grand Narbonne, et vous êtes président et directeur, je crois, à ce qu'on appelle la Société d'économie mixte à l'ENIS. Deux mots d'explication pour ceux qui ne sont pas vraiment versés dans ce genre de choses.
Alors, Société d'économie mixte, comme l'indique son terme, c'est un montage économique public-privé. Alors, en clair, ça existe depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Le législateur a voulu reconstruire le pays. Et donc a demandé également de mutualiser les fonds publics avec les fonds privés, et ont créé ce qu'on appelle les SEM, les sociétés d'économie mixte, et qui sont des, on va dire, pour vous le faire très très court, ce sont des sociétés des SA, donc comme n'importe quelle société, avec une obligation de résultat, qui ne sont pas subventionnables. Donc il y a une obligation.
Oui, ce sont bien des sociétés privées.
Ce sont des sociétés privées, mais avec un actionnariat public qui, lui, va pouvoir lui demander des positionnements politiques dans la gestion de ces sociétés, c'est-à-dire sur tel ou tel axe de projet à venir.
Voilà. Alors justement, un positionnement politique, c'est ça qui nous intéresse. À l'ENIS, aujourd'hui, a quoi comme mission ?
Alors, au départ, à l'ENIS, enfin, et encore aujourd'hui, nous sommes une société d'aménagement. Alors l'aménagement, c'est quoi ? C'est pouvoir mettre en œuvre une volonté politique, admettons, d'un politique qui va dire sur tel endroit, j'aimerais faire une zone d'activité. Donc c'est une patadoïde qui va se faire sur un plan, et nous, la société, on va enlever tous les verrous. En clair, c'est quoi ? Ça va être faire des études environnementales, des études de loi sur l'eau. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais c'est rendre possible la réalisation de cette volonté politique. Ça, c'est l'aménagement. Ensuite, en parallèle, on a bien entendu fait évoluer la société avec des compétences techniques. Donc, je ne vais pas toutes vous les citer, mais nous avons fait l'aménagement, c'est nous qui avons sorti l'aménagement de là où se trouve l'hôpital privé de Grand Narbonne. Donc, quand vous allez le voir, vous verrez qu'il y a pas mal d'aménagements sur le côté. C'est pour la gestion de l'eau. Et on a l'aménagement des berges de la Robine, où là, on va dire, on fait mutualiser les équipements publics avec le logement. Et on a une dernière corde à notre arc, là, depuis quelques années, où on s'est spécialisé dans les réseaux de chaleur. Donc, on a des ingénieurs dans la société à l'ENIS qui travaillent justement pour mettre en place des réseaux de chaleur. Ça a été le cas, le réseau de chaleur de l'hôpital privé du Grand Narbonne. Et là, on travaille notamment avec la récupération de chaleur de l'eau du port de Port-la-Nouvelle pour alimenter, entre autres, la machine à glaçons de la Crie, etc., etc. Voilà, donc on a des spécialisations comme ça.
Oui, alors justement, revenons à l'hôpital privé ou la clinique là, qui est à Montredon. Il y a une production de chaleur, une unité qui est un petit peu à part. Comment ça fonctionne, ça ?
Alors, c'est une production de biomasse, donc avec bois et électricité. Et donc, nous avons fait ce réseau de chaleur qui permet au départ d'alimenter l'hôpital privé de Grand Narbonne en chaud et en froid, avec un cahier des charges, vous doutez bien, très strict, parce que effectivement, il faut que ça ne tombe pas et jamais en panne. Bien entendu, il faut garantir cette fraîcheur ou cette chaleur demandée. Et la grosse valeur ajoutée pour la zone d'activité, c'est que vu que cette centrale de ce réseau de chaleur a été mis en place, on a le plus gros, on va dire, client entre guillemets, utilisateur, mais ça nous permet de pouvoir mettre en place pour les entreprises qui viennent s'installer, leur proposer, on va dire, l'intégration dans le réseau de chaleur.
Oui, c'est-à-dire qu'ils pourront profiter de cette installation.
Mais bien, voilà. Et là, le gros avantage, quand on sait effectivement l'augmentation du coût de l'énergie, nous, on maintient notre tarification depuis le départ, depuis 2019.
Oui. Alors intéressant quand même.
Intéressant économiquement. Pour l'entreprise qui vient s'installer, très intéressant économiquement. Ce qui fait que, au-delà de ça, et vous le comprendrez bien, attractivité supplémentaire de notre zone d'activité de pêche-péri, qui est donc la zone d'activité qui est autour de l'hôpital.
Oui, oui, il y aura la clim, quoi.
Il y aura, on va dire, la clim ou refroidissement des locaux ou chauffage à des prix compétitifs.
Voilà. Et autre projet intéressant, alors revenons sur Narbonne, mais un projet qui est très spectaculaire, c'est tous ces immeubles qu'il y a à côté du musée Narbovia.
Oui.
C'est la ZAC des berges de la Robine.
Les berges de la Robine.
Oui. Et alors, il y a, c'est presque, non, c'est pas tout à fait plein, mais c'est quand même bien construit maintenant. C'est bien avancé.
Oui, c'est bien avancé. Il reste encore des terrains qui seront mis à la commercialisation au fur et à mesure des besoins. Il y a un projet de la ville de Narbonne de mettre en place donc un hôtel entre l'aréna et le parc des expositions. Bon, il n'est pas encore situé exactement où, mais enfin voilà, il y a cette attractivité qui est mise en place pour justement amener du logement, mais également, on va dire, des services et de l'attractivité.
Oui, surtout dans ce coin qui est finalement avec l'aréna, le stade, le théâtre pas loin, qui est un endroit très stratégique de Narbonne.
Ben, c'est l'entrée est de Narbonne, c'est une belle entrée avec de belles réalisations et on va dire avec des équipements qui sont de plus en plus utilisés par les Narbonnais mais également par les habitants du Grand Narbonne. Et oui, non, c'est stratégique, c'est intéressant et voilà, et la mairie travaille dessus donc. On va dire avec nous, parce qu'on est le bras armé hein, des collectivités à l'ENIS, pour justement réaliser au mieux cette entrée, répondre au mieux, on va dire, des besoins d'aujourd'hui et de demain.
Alors Didier Aldebert, donc vous êtes, je le disais tout à l'heure, maire depuis pas mal de temps, impliqué dans d'autres domaines également. Vous avez une expérience d'une bonne vingtaine d'années, je crois.
Alors, je suis élu conseiller municipal depuis 2001, donc ça fait 23 ans, et maire depuis 2008.
Et alors, la question traditionnelle qu'on pose, justement, c'est quel est le regard que vous portez sur l'évolution, si vous en avez constaté une, pendant toutes ces années, sur ce genre d'engagement et de... Oui, d'engagement, tout simplement.
Alors, oui, une évolution...
Parce qu'on entend des maires se plaindre que c'est devenu très difficile, qu'ils sont agressés, qu'ils sont malmenés.
Ah, c'est vrai, c'est pas...
Ça existe.
Ce n'est pas de la fiction, hein, c'est une réalité. Quand on parle d'évolution, moi j'ai vu du changement, on va dire. C'est du changement dans le comportement. Avec, on va dire, une attente de plus en plus forte de la part de nos concitoyens et un changement dans le comportement, dans la
citoyenneté.
Oui, aussi dans la citoyenneté.
Parce que le comportement, c'est ça un peu.
Mais je crois que on paie. Je parle pas de Vincent, hein, je parle en général dans la société. On paie des décennies d'infantilisation de l'être humain français, où on est, on attend tout d'un pouvoir centralisateur.
De l'État, oui.
Et donc, à force que ce pouvoir centralisateur centralise bien entendu tout, on attend tout d'eux. Et donc, automatiquement, on enlève tout ce qui est la pensée par soi-même ou l'action par soi-même.
Et la prise de responsabilité.
Et la prise de responsabilité, bien entendu. On s'en aperçoit sur le manque d'investissement politique dans les élections hein, locales ou autres. Hein, je suis désolé.
On est en plein dedans,
mais on n'a pas beaucoup de gens qui poussent au portillon pour essayer de s'investir politiquement. Dans la politique, je rappelle, la politique, la gestion de la cité et du citoyen. Je vous parle pas de politique politicienne.
Oui.
Donc là, moi, j'ai vu cette évolution. Je vois ce changement. Et je m'aperçois surtout du fossé qui s'est créé entre l'État, on va dire notre pouvoir centralisateur, le législateur. On est en pleine législative, par exemple. Il y a quelques années de ça, il y a une vingtaine d'années de ça, un peu moins, il y avait des députés-maires. Ces députés-maires, donc, on a voulu, pour une histoire de laver plus blanc que blanc ou d'être plus vertueux que la vertu, dire le cumul des mandats, c'est pas bien. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, depuis quelques années, un fossé s'est créé entre le législateur, c'est-à-dire les parlementaires, et la vie locale. Parce que tout simplement, il y a des gens, mais ce n'est pas leur faute, qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas l'expérience de ce que c'est que de gérer, on va dire, le quotidien des concitoyens. Et donc, ce fossé s'est creusé, et il arrive ce qu'il arrive avec une déconnexion totale, non voulue, par nos parlementaires non voulu.
Enfin, non pensé à l'origine.
Non pensé à l'origine, mais
créé. Mais créé quand même.
Mais c'est une réalité. C'est une réalité.
C'est-à-dire une technocratisation encore plus du pouvoir.
Ah, mais complètement. Si on parle, allez, il y a 20 ou 30 ans, les maires, les députés maires, c'était des villes moyennes comme Narbonne, Carcassonne, Béziers, etc. C'était quand même des villes moyennes, c'était pas des villages, les députés maires. Très peu. Il y a des exemples, bien sûr. Mais quand ils montaient, donc, à l'Assemblée nationale, oui, et qu'il y avait une loi qui parlait de leur territoire et de la ruralité dont ils faisaient partie, qu'ils soient de droite ou de gauche, oui, sur cette loi-là, mais ils pouvaient échanger parce qu'ils connaissaient le fonctionnement. Aujourd'hui, nous avons des parlementaires, notamment des députés, qui peuvent être pour certains pleins de bonne foi,
mais qui sont ignorants de beaucoup de choses.
Mais il leur manque un truc. C'est l'expérience de la vie de tous les jours. Vie d'élu local. Voilà.
Chose qui s'apprend sur le terrain et non pas dans les livres.
Mais oui, parce que tout simplement, l'élu local, le maire et les conseillers municipaux, comme on dit chez nous, ils sont à portée de baffe des gens qui ne sont pas contents. Donc, je peux vous dire, on retient beaucoup plus vite.
Voilà. Mais écoutez, c'est sur cette opinion d'Didier Aldebert que nous concluons. Espérons quand même que la baffe soit lointaine,
elle
arrive trop...
Malheureusement, ça arrive, des collègues, ça arrive.
Elle arrive trop facilement.
C'est pas de la fiction, comme je disais tout à l'heure.
Voilà. Merci, en tout cas, pour ces explications et cette expérience personnelle. Le prochain invité, ça sera d'ailleurs le dernier de la saison, ou la dernière de la saison, ce sera Emma Bellotti, qui est vice-présidente du Grand Narbonne, chargée de l'action culturelle. Je rappelle aussi aux auditeurs qu'après diffusion FM et rediffusion le dimanche à 11h05, cette émission se trouve en podcast sur notre site grandsudfm.com. Merci Didier Aldebert, merci de nous avoir suivis.
Merci à vous.
À la semaine prochaine.
Au revoir.